Il est 22h sur Europe 1. Tout de suite, on retrouve Isabelle Millet pour le journal. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Les époux Fillon vont être jugés. Le couple est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs présumés. Elle a fait de la lutte contre les nationalistes en général et contre l'extrême droite française en particulier son cheval de bataille pour les élections européennes. Dans sa jeunesse, pourtant, Nathalie Loiseau a figuré sur la liste d'un syndicat étudiant d'extrême droite. L'État islamique revendique les attentats de dimanche au Sri Lanka. Deux frères en particulier sont au cœur des investigations. Notre planète Terre, décidément pas au mieux. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées, à plus ou moins long terme, d'extinction. Il y a urgence, à l'approche de la pluie, une bâche de protection a commencé à être installée sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Côté météo, justement, les deux prochains jours seront bien agités, avec de la pluie localement orageuse et du vent qui se maintient dans le sud-est et qui remonte jusqu'en Alsace. Les températures, elles, vont légèrement baisser. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le président de Monoprix, Régis Schulz.
Europe 1.
C'est l'affaire qui a marqué la dernière campagne présidentielle, celle des emplois présumés fictifs du couple Fillon. Et on a donc appris aujourd'hui que l'ancien Premier ministre et son épouse sont renvoyés en correctionnel. François Fillon pour détournement de fonds et abus de biens sociaux, notamment Pénélope Fillon pour complicité. Alain Accot, dans leur conclusion, les magistrats sont accablants.
Oui, on peut même dire qu'ils sont cinglants, sur le fond comme sur la forme. Leur enquête a établi qu'en un peu plus de 20 ans, Pénélope Fillon avait perçu plus d'1 million d'euros de salaire en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant. Pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un emploi fictif, ses avocats ont fourni ce que les juges décrivent comme une masse de documents qui ne démontrent rien, sauf à faire passer la plus anodine de ses activités pour un travail de collaborateur parlementaire. La thèse selon laquelle Pénélope Fillon aurait tenu à son domicile une sorte de permanence politique où elle recevait les administrés de son mari, invraisemblable, écrivent les juges. Quant à la présenter comme un agent de terrain qui aurait fait remonter des informations, pour eux, ce n'est pas très sérieux.
Les magistrats qui sont encore plus sévères, Alain, avec le travail qu'elle est censée avoir effectué auprès du successeur de son mari, Marc Joulot, qui est lui aussi renvoyé devant le tribunal.
Oui, les juges écrivent que Pénélope Fillon ne figurait même pas en copie des courriels organisant les visites du député dans la Sarthe. Son emploi n'était rien d'autre que la contrepartie à cette place de suppléant, un biais permettant au couple Fillon d'augmenter ses revenus. De même, le poste de conseiller littéraire dont Pénélope Fillon a bénéficié de la part du milliardaire Marc de la Charrière, propriétaire de la Revue des Deux Mondes, ce poste est qualifié de pure complaisance pour satisfaire une demande de François Fillon à un moment où les ressources du couple allaient diminuer. Les magistrats ont aussi enquêté pendant plusieurs mois sur la société de conseil de François Fillon. S'ils ont finalement renoncé à le poursuivre pour trafic d'influence, ils ne se privent pas de préciser que les éléments recueillis sont assez éclairants sur la personnalité de François Fillon et son rapport à l'argent. Et ils en profitent pour dénoncer le mélange des genres auquel il s'est livré entre 2012 et 2017 à l'époque, écrivent les magistrats. Il était tout à la fois lobbyiste, intermédiaire, député, chef de parti et candidat à l'élection présidentielle.
Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1. Les époux Fillon ont 10 jours pour faire appel et ce soir, l'avocat de l'ancien Premier ministre s'interroge sur des fuites opportunes concernant ce dossier. Il affirme par ailleurs que François Fillon est impatient de pouvoir s'exprimer. Elle reconnaît une vraie connerie, une erreur de jeunesse. Nathalie Loiseau, la tête de liste La République en marche pour les européennes, dont on a appris qu'elle était inscrite sur une liste d'extrême droite à l'époque où elle était étudiante à Sciences Po Paris en 1984. Révélation de nos confrères de Mediapart, ça fait désordre pour celle qui cible régulièrement le Rassemblement national. Nathalie Loiseau qui a fait son mea culpa aujourd'hui sur Twitter.
Oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier, je le regrette. C'est une erreur d'il y a 35 ans. J'entends aujourd'hui certains me prêter une proximité avec l'extrême droite. C'est révoltant. Je porte une liste dont l'objectif, c'est de combattre l'extrême droite. Je déteste tout ce que représente l'extrême droite dans notre pays et en Europe.
Le mea culpa de Nathalie Loiseau qui ne convainc pas, franchement. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, dénonce un double discours.
On vient donc apprendre que la tête de liste En Marche, Madame Loiseau, a en réalité été, par le passé, une militante d'extrême droite. la même personne qui, depuis le début de sa campagne, ne porte qu'un seul mot d'ordre. Ma seule raison d'être, c'est de battre l'extrême droite. Eh bien, je laisse chaque Français juge de se demander si, après de telles révélations, on peut encore faire confiance à une personne comme Madame Loiseau. Et si, après un tel double discours, il peut y avoir encore le moindre crédit qui s'attache à ces paroles.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains, au micro Europe 1 d'Aurélie Herbemont. Notez que le Rassemblement national a bouclé son emprunt patriotique en vue des élections européennes, qui lui a permis de lever 4 millions d'euros. Lancé il y a 2 semaines, cet emprunt proposait un intérêt de 5% avec un minimum de 1 000 euros pour faire face au refus des banques de prêter de l'argent à la formation d'extrême droite. Il avait affiché un message appelant les policiers au suicide sur sa camionnette. Le gilet jaune arrêté hier à Caussade, dont le Tarn-et-Garonne a été déféré aujourd'hui après une nuit en garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de manifester jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour outrage. Ce sera le 12 juillet. L'intervention du RAID cet après-midi à Lourdes, un ancien militaire d'une cinquantaine d'années s'était retranché dans un appartement retenant plusieurs personnes, dont son ex-femme sur laquelle il a tiré. Elle a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Le forcené, lui, a été interpellé.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1 et le rectificatif des autorités du Sri Lanka. Aujourd'hui, aucun Français ne figure finalement parmi les victimes des attentats de dimanche. Le ministère des Affaires étrangères évoque une erreur de nationalité. Le dernier bilan provisoire encore est de 320 morts et 500 blessés. Des attentats qui ont donc été revendiqués aujourd'hui par l'organisation terroriste État islamique, Rémi Botsaron.
Oui, les auteurs des attaques sont des combattants de l'État islamique. C'est ce qu'affirme l'organisation terroriste via son agence de propagande. Alors, on rappelle tout de même que l'État islamique a déjà revendiqué certains attentats sans que son implication soit prouvée. Mais on sait aussi qu'il peut inspirer des passages à l'acte. En tout cas, pour le moment, c'est toujours la piste locale qui est privilégiée par les autorités sri-lankaises. Pour elle, le responsable, c'est d'abord ce petit mouvement islamiste, le NTJ. Il aurait voulu riposter après les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui visaient des mosquées. Et on en sait un peu plus sur le scénario des attaques de ce dimanche. Selon les enquêteurs, les 6 attentats contre des églises et des hôtels de luxe étaient des attentats suicides et 2 suspects se sont ensuite fait exploser à Colombo pour éviter leur arrestation. Il s'agissait de 2 frères d'une 20aine d'années qui jouaient justement un rôle central au sein de ce NTJ. Reste à savoir si le NTJ a bénéficié d'un soutien logistique international. Les autorités locales en sont persuadées et les enquêteurs cherchent à répondre à cette question alors que le Sri Lanka observe une journée de deuil national en hommage aux 320 victimes. Parmi elles, selon l'ONU, au moins 45 enfants et adolescents.
Les précisions de Rémi Botsaron. En Algérie, les têtes continuent à tomber. Ce soir, c'est le PDG du groupe pétrolier Sonatrach qui a été limogé par le chef de l'État par intérim. Moscou dénonce une politique américaine agressive et imprudente vis-à-vis de l'Iran après la décision de Washington de sanctionner les pays qui continuent à acheter du pétrole à Téhéran. Une telle ligne de conduite n'ajoutera aucun prestige international aux Américains. Washington ne cache même plus sa volonté de soumettre le monde entier à sa volonté. C'est ce que déclare le ministère russe des Affaires étrangères. En pleine affaire Carlos Ghosn, la visite du Premier ministre japonais à Paris aujourd'hui, Emmanuel Macron et Shinzo Abe ont tous les deux réaffirmé leur attachement à l'alliance Renault-Nissan. Europe 1, il est 22h08 et des bâches ont commencé à être installées aujourd'hui au-dessus de Notre-Dame de Paris pour protéger la cathédrale de la pluie. Il y a urgence au vu des conditions météo annoncées pour les prochains jours. Charlotte Hubert, la présidente de la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, était ce soir l'invitée d'Europe 1.
C'est une opération assez délicate parce que vous savez que les voûtes de Notre-Dame de Paris ont été endommagées, donc c'est très fragile, on ne doit pas les toucher. On repose des poutres sur les 2 murs latéraux, un platelage assez léger et des bâches par-dessus. On est en vraie procédure d'urgence. C'est une solution qui est ultra provisoire. Vous savez qu'il y aura une grande couverture provisoire qui sera très visible, hein, à 2 pans, qui permettra de reconstruire la charpente et la toiture en dessous, qui va être mise en œuvre. Mais ça, c'est une opération beaucoup plus longue et on se doit de mettre à l'abri, je veux dire, paraît au plus pressé.
Effectivement, cette bâche, elle est provisoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'installation que l'on connaîtra par la suite, qui devrait normalement recouvrir complètement la cathédrale ?
Oui, voilà, ça va être un grand toit à 2 pentes, sûrement, qui prendra la même forme, mais qui sera plus haut que le toit réel de Notre-Dame, pour qu'on puisse restaurer le toit en dessous. C'est-à-dire qu'il servira à la fois à abriter la cathédrale et à abriter toutes les entreprises qui vont travailler en dessous pour refaire charpente et toit.
Charlotte Hubert, la présidente de la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, qui était l'invitée ce soir du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Plus aucun enfant ne doit arriver le ventre vide à l'école. 6 millions d'euros débloqués pour offrir le petit déjeuner gratuitement à 100 000 élèves des territoires prioritaires. Bonne idée, dit la petite Shannon.
Maintenant, maman, elle a plus d'argent pour acheter le petit déjeuner. Tout le temps, on mange que du pain, sans rien dedans. Et moi, je préfère manger plutôt à l'école.
Shannon qui se félicite donc de ces petits déjeuners gratuits qui ont été déjà mis en place dans son école de Pont-Sainte-Maxence, c'est dans l'Oise. Le ministre de l'Éducation et la secrétaire d'État à la Santé se sont rendus sur place ce matin. Et pour le directeur de l'établissement, Jean-Louis Dudec, le bilan est d'ores et déjà très positif.
Nous, sur l'école, ça a eu que des points positifs. Au niveau de la concentration des élèves, on avait moins d'enfants qui étaient fatigués le matin et qui s'endormaient l'après-midi, donc qui étaient plus disposés à travailler en classe. On a des enfants qui ont commencé à être autonomes en classe. Le fait d'être autonome au petit déjeuner leur a permis de faire la même chose en classe, donc de ne plus être passif devant les exercices. Donc c'est vrai que c'est plus agréable de travailler en classe avec eux, parce qu'ils sont tous prêts à travailler, à participer. Donc ils ne sont pas ailleurs, ils sont là.
Jean-Louis Dudec avec Yasmina Katou. L'actualité ce soir, ce sont aussi ces chiffres tellement impressionnants qu'on a du mal à réaliser. Entre 500 000 et 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction sur la planète dans les décennies qui viennent. C'est le constat alarmant d'un rapport d'experts internationaux qui sera discuté la semaine prochaine à Paris. Et c'est l'agence France Presse qui s'est procuré en avant-première ce rapport qui, théoriquement, devait rester confidentiel jusqu'à lundi, Ève Roger.
Jusqu'à 1 million d'espèces seraient menacées sur la planète, dit le rapport, espèces végétales et animales confondues. Il faut savoir qu'on estime environ à 8 millions le nombre total d'espèces sur Terre, dont les deux tiers sont des insectes. Alors, quelles sont les causes de cette catastrophe annoncée ? D'abord, c'est l'utilisation des terres par l'homme, l'agriculture, l'exploitation des forêts, des mines, et puis aussi l'exploitation directe des ressources, la pêche, la chasse. Viennent ensuite le changement climatique et enfin la pollution. Résultat, selon le rapport, ce sont les trois quarts des surfaces terrestres qui ont été gravement altérées, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau. Alors, quelles conséquences pour l'homme ? Les premiers touchés, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui sont dépendants de la nature pour vivre. Quelques exemples, plus de 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie. 4 milliards utilisent une médecine naturelle.
Les précisions d'Ève Roger. Les autorités ukrainiennes annoncent avoir saisi à Kiev un tableau de l'impressionniste français Paul Signac qui avait été volé l'an dernier au musée des Beaux-Arts de Nancy. Une huile sur toile datant de 1915 et qui représente des bateaux à l'entrée du port de La Rochelle. Elle avait été découpée et le cadre laissé sur place. Ce tableau a été retrouvé à Kiev, donc au domicile d'un homme également soupçonné du meurtre d'un bijoutier. Dans quelques jours, les dernières pistes fermeront dans les stations de sports d'hiver et cette année le bilan touristique est jugé globalement satisfaisant même si le taux d'occupation des hébergements de montagne devrait afficher un très léger repli, recul plus sensible dans les Pyrénées. Et puis pour la première fois, une femme vient d'être désignée arbitre centrale d'un match de Ligue 1. On parle de foot évidemment. Stéphanie Frappard arbitrera dimanche la rencontre entre Amiens et Strasbourg et c'est donc un petit événement dans le foot, Jean-François Pérez.
Stéphanie Frappard, c'est l'histoire d'une irrésistible ascension. À 35 ans, elle en a déjà passé plus de 20 à arbitrer. Au départ, elle est joueuse, plutôt douée, originaire du Val-d'Oise, au nord de Paris. Mais les carrières dans le foot féminin ne sont pas encore ce qu'elles sont devenues. Et Stéphanie Frappard se tourne rapidement vers l'arbitrage. Petite voix, mais forte personnalité, elle franchit un à un les échelons, arbitre les hommes en amateur, subissant sans broncher les remarques désobligeantes et souriant quand on l'appelle « Monsieur l'arbitre ». En 2014, elle est déjà la première à officier lors d'un match professionnel en Ligue 2. Cinq ans plus tard, elle en est l'une des figures respectées, malgré son 1m65. Car Stéphanie Frappard est non seulement une excellente arbitre, mais elle est aussi une athlète de haut niveau. Et c'est en respectant les mêmes critères que ses collègues masculins qu'elle a donc été promue en Ligue 1, ce qui était, elle ne s'en cache pas, l'un de ses objectifs suprêmes. Pour le reste, elle est déjà l'une des références mondiales de l'arbitrage dans le foot féminin, choisie pour représenter la France à la Coupe du Monde dans un mois et demi. C'est dans ce cadre, pour se préparer, qu'elle arbitrera Amiens-Strasbourg ce dimanche. Elle y découvrira notamment la VAR et ses polémiques à répétition. Bienvenue à vous, Madame l'arbitre.
Bienvenue en effet. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Mornin, avec une bonne nouvelle, si l'on peut dire. La pluie et le vent vont nettoyer la pollution sur le nord-ouest et également limiter la sécheresse dans le sud-est.
La pluie et le vent, Isabelle, vont nettoyer la pollution sur le nord-ouest et limiter la sécheresse dans le sud-est. Alors, les premières averses orageuses accompagnées de grêle ont déjà sévi cet après-midi sur le littoral atlantique. Ça se poursuit encore dans la nuit. Demain matin, cet axe s'étendra du Nord-Bretagne et Normandie jusqu'au Massif central. Et puis l'après-midi, ce sera un ciel d'alternance sur une grande partie nord et ouest. Nuages, rares éclaircies, quelques averses parfois orageuses. Plus sec, c'est vrai, au sud de la Garonne. Alors sur le sud-est, les pluies soutenues vont remonter le long de la vallée du Rhône jusqu'au nord-est, avec là aussi des orages. Et partout en France, du vent entre 60 et 90 km/h et même 110 sur les crêtes des Pyrénées. Alors les pluies et le vent vont se renforcer, attention, jeudi, entre la vallée du Rhône, le Massif central, la Bourgogne, avec de bonnes chutes de neige du côté de la Haute-Loire. Peut-être une vigilance orange à venir, compte tenu des pluies attendues, un cumul de 100 mm après cet épisode. Retour au calme en fin de semaine pour les régions de l'extrême sud. Et puis les températures, elles vont progressivement baisser pour atteindre finalement des valeurs de saison. Il fera encore chaud demain après-midi, surtout dans le nord-est, avec 23 à 26 degrés. 22 pour Lille, 21 à Paris et Ajaccio, 19 à Toulouse, 18 à Bordeaux, Montpellier et Marseille, 17 pour Bourges, 16 à Caen et Nantes, 15 degrés pour Brest.
La météo signée Elena Mornin. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président de Monoprix. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
À 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et les indices qui retrouvent leur plus haut niveau à Wall Street.
Oui, on est sur un record historique pour le Nasdaq. Ce soir, il termine à 8121 points grâce à un gain de 1,32%. Le Dow Jones gagne de son côté 0,55%, 26 656 points. Ce n'est pas encore un record pour le Dow, mais il s'en rapproche. Alors les marchés sont portés ce soir par de bons résultats financiers pour les grandes entreprises. La star du jour, c'est Twitter, un bond de plus de 15% pour le réseau social grâce à ses bons revenus et à une hausse surprise de ses utilisateurs. Hasbro, le fabricant de jouets, flambe de 14%. Là aussi, l'activité trimestrielle est plus solide que prévu grâce notamment au succès des figurines et des robots Transformers. Et puis c'est du vert également pour Coca-Cola, plus 1,7%. Coca qui a donc signé un bon premier trimestre. Les cours du pétrole sont au plus haut depuis près de 6 mois. Ça soutient aussi les marchés. Le brut est toujours dopé par la décision américaine d'assécher les exportations de pétrole iranien. Le WTI grimpe de 1,1%, 66,30 $ le baril. Et puis l'euro recule face au dollar et s'échange contre 1,1220.
Et le marché parisien, Claire, signe lui aussi une belle séance après un long week-end de Pâques.
Oui, avec un petit gain de 0,2% pour le CAC 40 qui termine à 5592 points. Un CAC 40 bien aidé par la vigueur du secteur pétrolier comme à New York. Technip FMC grimpe de 4,3%, Total de 1,8%. Très belle séance également pour Kering qui grimpe de plus de 4%. L'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note du géant français du luxe. Et puis plusieurs bureaux d'analyse ont également revu en hausse leurs recommandations. Donc une actualité positive pour Kering.
Et puis les menaces de grève chez Air France ont apparemment pesé sur la valeur.
Avec une chute de 6% pour Air France KLM, le syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, menace de faire grève du lundi 6 mai au samedi 11 mai inclus. Ça inquiète bien sûr les investisseurs.
Et les voyageurs, parce que c'est en plein pont du 8 mai.
Et ça fait une grosse semaine de grève éventuelle. Et puis Casino ce soir perd 1,5%. La note de crédit du distributeur a été dégradée par Standard & Poor's. L'agence estime que le fardeau de la dette reste élevé. Les places européennes ont terminé dans le désordre. Plus 0,8% pour Londres, plus 0,1% pour Francfort. Mais c'est du rouge pour Madrid, moins 0,6% pour Milan, moins 0,3%, moins 1,2% pour Bruxelles. Et le CAC 40 avance de 0,2% à 5592 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h19, il est temps de retrouver l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le président de Monoprix.
Bonsoir Régis Schulz.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Monoprix. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous venez d'annoncer ce matin le groupe Casino que vous allez élargir votre partenariat avec Amazon. Vous étiez venu en 2018 nous annoncer ici sur Europe 1 en avant-première que vous ouvriez cette fameuse brèche avec Amazon. Alors on va commencer ce partenariat qui s'élargit avec vous, patron de Monoprix, parce que vous annoncez aujourd'hui que les produits Monoprix pourront être livrés au-delà de Paris. Jusque-là, c'était uniquement la région parisienne, mais le communiqué est très très flou. C'est pour quand et c'est où ?
Alors, on va être plus précis. Alors, il y a un mois et demi, on a ouvert l'ensemble de Paris, plus 52 communes limitrophes à Paris. On va élargir sur la région parisienne, donc pour couvrir toute la région parisienne. Et puis à terme, on va ouvrir dans les grandes villes de province.
Alors, quelles sont ces grandes villes de province ? Que ça, je l'avais vu dans le communiqué de presse, mais ça mettait dans un horizon, je crois, d'un an, ouvrir voilà, de grandes métropoles régionales.
Voilà. Pour l'instant, on est en train de travailler sur le dossier avec notre partenaire pour définir quelles sont celles dans lesquelles on a suffisamment d'espace pour pouvoir le faire et puis dans lesquelles Amazon est prêt à nous accompagner.
Pourquoi tant de secrets ?
C'est pas du secret, parce que c'est un principe de communication, de communiquer le jour où c'est disponible pour le client. Comme ça, on est sûr qu'on ne crée pas de fausses espérances pour les clients.
Je me suis amusé à rechercher les titres de presse au lendemain de cette annonce de ce deal avec Amazon. Révolution, brèche ouverte, le loup dans la bergerie. Est-ce que oui, c'est un succès pour vous, Monoprix ? Est-ce que vous avez augmenté vos ventes grâce à tout cela ? Est-ce que vous en êtes content ?
On en est très content. On a, pour trois raisons. La première, on a augmenté nos ventes. La deuxième, on a conquis des nouveaux clients qui étaient des clients Amazon Prime, qui n'étaient pas des clients Monoprix. Et la troisième, on apprend beaucoup avec le leader mondial du e-commerce. Et on a appris beaucoup de choses. Ça nous a remis en cause.
Vous avez appris quoi, par exemple, de façon très concrète ?
Eh ben, de façon très concrète, par exemple, l'organisation du picking. C'est-à-dire la façon dont
on
va
vient chercher nos produits.
Chercher des produits. On a changé nos processus. Voilà. Donc on a un certain nombre d'apprentissages qu'on fait. Et pour nous, c'est un partenariat qui apporte beaucoup de valeur.
Au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a deux autres étages à ce nouveau partenariat. Le fait que, par exemple, nos auditeurs qui commandent sur Amazon, qui ont l'habitude d'aller chercher dans des consignes, soit dans les gares ou dans des choses comme ça, eh bien bientôt, ils vont pouvoir le faire dans le groupe Casino, donc c'est-à-dire l'enseigne Casino, Franprix, mais également chez vous, par exemple, Monoprix. Il va y avoir 1000 consignes qui vont être mises en place un petit peu partout.
Tout à fait, 1000 consignes. Alors, la force du groupe Casino, c'est, comme vous l'avez dit, c'est marque et puis aussi son réseau de magasins, plus de 6000 magasins en France. Et donc, ça va permettre de mailler l'ensemble du territoire et de donner accès aux clients dans beaucoup de villes sur lesquelles ils n'ont pas obligatoirement l'accès aujourd'hui aux produits.
Et vous créez une vraie concurrence en interne, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, parmi les marques que vous avez quand même Cdiscount, le deuxième plus gros site en France de e-commerce. Vous allez créer une concurrence directe ?
On ne crée pas une concurrence directe, les deux propositions sont complémentaires. Et puis nous, on joue notre rôle de commerçant. On voit bien que le rôle de commerçant est en train d'évoluer et en train de migrer vers quelque chose où on assemble le digital et le commerce physique. Et au travers de ces partenariats, au travers de ces discounts, ça nous permet vraiment de répondre à l'ensemble des besoins des clients.
Alors vous avez aussi annoncé ce matin que on va trouver plus de produits que ce que l'on trouvait jusque-là sur Amazon en alimentaire, hein, parce que c'était ça la grande nouveauté du deal que vous aviez signé avec eux. Jusque-là, c'était les produits Monoprix, encore une petite catégorie des produits Monoprix, mais on va également avoir maintenant des produits Casino, ceux qu'on trouve hein, dans les hypermarchés. Vous faites rentrer encore un petit peu plus le loup dans la bergerie ?
Non, parce qu'aujourd'hui sur Amazon, vous allez trouver les produits de plein de grandes marques. Hein, donc, et on considère...
Mais vous êtes le seul distributeur à accepter d'être logoté en tant que tel et vous êtes le seul à avoir accepté d'ouvrir la brèche.
Il y a deux choses en fait. Vous avez Amazon Prime sur lequel vous avez une boutique Monoprix et cette boutique Monoprix, on est le seul, comme vous le dites. Après, vous avez sur le site Amazon.fr la présence de beaucoup de marques qui sont présentes dans les magasins de l'ensemble des chaînes.
Mais tous vos concurrents, Leclerc et autres, disent « moi, jamais j'aurais fait ça ».
Ils font ce qu'ils veulent. Nous, en fait, c'est aussi parce que Leclerc en particulier n'a pas de marque propre forte. Aujourd'hui, nous, la marque Casino est une marque forte. Elle a 120 ans d'expérience, 120 ans d'acquis. Et aujourd'hui, au travers de cette qualité, cette excellence, ce qu'est venu chercher Amazon, comme il l'est venu chercher chez Monoprix, c'est l'excellence des produits. Et sur la partie des marques distributeurs de Casino, on est certainement celui qui a les meilleures marques, les meilleures filières. Donc, ce qu'on va y mettre pour les clients, c'est du Casino bio, c'est tout ce qui est le vin avec le club des sommeliers. Enfin, il y a toutes des filières, un niveau de qualité, de production en France, de respect de l'environnement et des cahiers des charges qui est la recherche aujourd'hui d'Amazon. Amazon, il veut des grandes marques et on est une grande marque et Casino est une grande marque comme Monoprix.
Mais Amazon est réputé pour laisser très très peu de marge aux marques qui sont présentes sur son site. C'est-à-dire que vous faites un effort considérable, vous, groupe Casino, pour être si bien mis en avant sur le site et pour assurer ce partenariat. Vous êtes prêt à tout ?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je pense que le modèle économique, et d'ailleurs on le voit bien, Amazon aujourd'hui gagne de l'argent sur l'activité B2B, c'était l'activité sur le cloud, ne le gagne pas sur la partie de distribution en tant que telle. Et puis derrière, aujourd'hui, est en train de faire évoluer son modèle vers un modèle qui est plus vendre de la publicité, etc. Donc l'activité de vendre des produits n'est pas une activité rentable chez Amazon aujourd'hui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est certainement pas celui qui nous demande plus d'efforts sur les marges.
Il y a souvent beaucoup de rumeurs sur le groupe Casino. Hein. Vous êtes très souvent attaqué par des activistes boursiers. C'est vrai que le groupe va mal ?
Non, le groupe va très bien. Je pense que le groupe a...
Vraiment ?
Oui, vraiment. Je pense que le groupe a fait les bons choix avant tout le monde sur l'urbain avec les anciennes Franprix, Monoprix, sur le fait de se débarrasser ou de limiter son exposition en hypermarché. Hein. Le groupe Casino est celui qui a le moins d'hypermarchés en France. Donc aujourd'hui, les choix stratégiques ont été validés et sont validés. Il se pose toujours la question...
Et pourquoi la communauté financière, vous en votant, là, vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais encore, Moody's et deux Standard & Poor's, qui sont deux très très grosses agences financières, on dit on n'est pas confiant.
C'est pas qu'ils sont pas confiants, c'est qu'ils posent des questions sur l'endettement, et en particulier l'endettement du propriétaire du groupe Casino. Mais le groupe Casino en tant que tel va bien, on a plus de 3 milliards de cash, et donc la question qui se pose, c'est plus une question qui concerne l'actionnariat que le groupe Casino en lui-même.
Et bien un grand merci Régis Schultz, le patron de Monoprix, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et à demain Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on va jeter comme tous les soirs un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Un visage s'affiche sur fond rouge à la une de Libération, celui de Jean-Luc Mélenchon, petit sourire en coin. Avec ce titre, « Je ne suis pas ma caricature ». Libération propose un entretien avec le leader de la France insoumise qui revient sur l'unité de la gauche, sur les dissensions internes, l'Europe, les perquisitions. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à une fédération populaire pour unir la gauche, union qu'il espère pouvoir mener si, dit-il, les élections européennes lui en donnent la force. Nathalie Loiseau, « Le doute gagne ». C'est le titre du journal L'Opinion qui revient sur les révélations de Mediapart. On en parlait tout à l'heure. La tête de liste de la majorité aux européennes a figuré dans sa jeunesse sur une liste étudiante d'extrême droite alors qu'elle était à Sciences Po, Paris. Séquence difficile pour la candidate Nathalie Loiseau qui justement a fait de la lutte contre l'extrême droite son mot d'ordre pour ces européennes. L'orage qu'elle traverse vient une fois de plus donner raison à Jacques Chirac qui disait « Les emmerdes, ça vole en escadrille », écrit l'Opinion. À un mois du scrutin, l'ancienne ministre est dans une mauvaise passe, d'autant que la courbe des intentions de vote de la liste La République En Marche avec 22% croise celle du Rassemblement National avec 22,5% d'après un sondage IFOP pour Paris Match. Les Échos, quant à eux, s'interrogent pourquoi le temps de travail revient-il au cœur du débat ? Le sujet figurait dans l'allocution présidentielle non diffusée, mais sans aucun détail. Retraite, 35 heures, jours fériés. Emmanuel Macron pourrait préciser après-demain, jeudi, les pistes à l'étude. Tout autre sujet dans Le Figaro, il est question de la progression inquiétante de la contrefaçon de médicaments portée par la vente en ligne. Le trafic de faux médicaments a triplé en à peine 12 ans. Des centaines de milliers de personnes périssent chaque année à cause de ce fléau. Et puis rue d'Aubagne, à Marseille, les sinistrés désespèrent, écrit le journal La Croix. 6 mois après l'effondrement de 2 immeubles qui a fait 8 morts, les habitants attendent toujours un relogement durable. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Il est 22h30 et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie bien sûr de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'info.
Absolument.
À tout à l'heure.